Europe 1, il est midi.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, une nuit de violence à Alençon dans l'Orne, avec voitures brûlées et tirs de mortier sur des policiers sur fond de trafic de drogue. Le récit dans un instant, et avec un policier sur place, on verra comment on peut en arriver là, dans un territoire pourtant éloigné des grands centres urbains. Les matchs de foot et le match de foot qui suscite la polémique à l'Assemblée nationale, un match avec des députés du RN, avec lesquels les députés de gauche ne veulent pas jouer. Bon, on sera avec une porte-parole du Parti Socialiste et avec le député Renaissance Karl Olive, qui lui va participer au match. Le sabotage des gazoducs Nord Stream. On soupçonne la Russie qui se défend de toute responsabilité. Les référendums gagnés par les pro-russes dans le sud de l'Ukraine. Les dernières informations sur le conflit avec Wilfried de Villers. Et puis on sera avec un spécialiste de la Russie, Nicolas Tenzer. On recherche des conducteurs de cars, des conducteurs de bus dans la France entière. Il y a pénurie. À la RATP, en Ile-de-France, s'ajoute à cela, à ces problèmes de recrutement, des arrêts maladie en pagaille et des escroqueries aux faux arrêts maladie. On va vous raconter ce qui se passe actuellement à la RATP. Les sorties cinéma du jour, on est mercredi, ce sera avec Marie Jiquel. Et puis la tendance météo, Anissa Haddadi, avec une bonne nouvelle pour les terres arides.
Oui, c'est vrai qu'avec cette semaine très pluvieuse, on note un recul de la sécheresse de surface. Mais attention, hein, ces pluies ne profitent pas encore pleinement aux nappes phréatiques. Aujourd'hui, encore beaucoup de pluie cet après-midi, notamment du sud-ouest au nord-est. Et beaucoup, beaucoup de vent.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Voitures brûlées, abribus dégradés et policiers attaqués. Bilan des émeutes qui ont eu lieu la nuit dernière dans le quartier Persaigne à Alençon dans l'Orne. Des violences qui auraient été déclenchées par l'interpellation d'un homme un peu plus tôt dans la journée. Chloé Lagadou avec nous. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Dites-nous ce qui s'est passé.
Alors oui, tout a commencé hier, en début de soirée. Une course-poursuite débute entre la police et un groupe de jeunes. Une course-poursuite qui va se solder par une interpellation dans le quartier de Persaigne. Quelques heures plus tard, aux alentours de 23h, des violences éclatent. Le bilan, 24 voitures brûlées et une quarantaine de tirs de mortier contre les forces de l'ordre. La semaine dernière, déjà, plusieurs individus ont été interpellés pour détention et trafic de drogue dans ce même quartier populaire. Et selon les autorités, ce sont ces arrestations qui ont provoqué les émeutes de la nuit dernière. Il y a près d'un an, des violences similaires avaient éclaté dans les mêmes conditions. De quoi questionner le maire d'Alençon, Joachim Pueyo.
Premièrement, la présence des forces de l'ordre. Alors, on a demandé de renforcer les effectifs du commissariat d'Alençon. Ça a été fait. Il y a eu 4 nouveaux policiers qui sont arrivés. Mais je pense que notamment pour le service de nuit, ce n'est pas suffisant. La deuxième question qu'on doit se poser, dans le groupe de jeunes, il y avait des mineurs. La question des familles. Pour quel motif les familles n'interviennent pas? Et puis, le troisième point, c'est les sanctions. Est-ce que les sanctions sont suffisantes?
Et concernant donc les émeutes de la nuit dernière, une enquête policière est en cours, mais aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant.
Chloé Lagadou, merci beaucoup Chloé pour toutes ces informations. On entendait le maire à l'instant. Hein. Que font les familles? Les mineurs sont dehors. Que font les familles à Alençon dans l'Orne? Ça, c'est une des questions que je poserai à Stéphane Tristan, qui sera avec nous dans un instant, délégué Alliance Police Nationale pour le département de l'Orne. Le rappeur Caris, placé en garde à vue pour violence conjugale, son ex-compagne l'accuse de lui avoir porté des coups de poing et des coups de pied en janvier dernier dans un contexte de divorce houleux. La jeune femme avait déposé plainte l'été dernier. Caris, quant à lui, porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Les députés de la NUPES ne chausseront pas les crampons aujourd'hui, alors qu'ils devaient participer à un match de football caritatif aux côtés d'autres parlementaires. Les élus, écologistes, socialistes et insoumis ont finalement déclaré forfait. Alexis de la Fontaine avec nous. Bonjour Alexis.
Bonjour Romain.
Pourquoi ont-ils déclaré forfait? Eh bien parce qu'il y aura dans l'équipe des députés du Rassemblement National.
Oui, les écologistes, insoumis et socialistes refusent de participer à ce qu'ils dénoncent comme la normalisation du Rassemblement National. Dans un communiqué, les insoumis déclarent être plus enclins à tacler l'extrême droite qu'à lui faire des passes. Une position défendue par le chef des socialistes, Boris Vallaud.
Est-ce qu'on va faire croire que nous pouvons être coéquipiers sur le terrain alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle?
Seul le Parti communiste enfilera ses crampons. Le député Sébastien Jumel se justifie. Les milliers de joueurs amateurs ne demandent pas pour qui a voté leur adversaire. Alors pour la formation de Marine Le Pen, ce match est pris en otage par la gauche, comme le détaille Emmanuel Bléry, gardien de but et député du Pas-de-Calais.
On sera sur un terrain de football, on respectera les règles, eux décident de boycotter ça, finalement ils ne respectent pas les règles, un peu comme ici dans l'hémicycle. On appelle ça du sectarisme, qui est un marqueur de l'extrémisme, où situe l'extrémisme aujourd'hui, je pense plutôt à gauche.
Enfin, la majorité présidentielle est également divisée sur le sujet, tandis qu'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, déconseille aux macronistes de participer à ce match. Karl Olive, le capitaine de l'équipe, sera lui bien présent.
Merci beaucoup Alexis de la Fontaine. Karl Olive, il sera présent également dans Europe Midi. Avant le match, il sera en direct avec nous dans un instant. Lui, il va jouer, vous le disiez. Et puis on sera avec une porte-parole du PS qui, elle, va nous expliquer pourquoi les députés socialistes ne veulent pas jouer avec des députés du RN. Réaction de Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, qui, vous le disiez, dénonce la haine de ses collègues de gauche. Elisabeth Borne et les cadres de la majorité conviés pour un dîner à l'Élysée ce soir autour d'Emmanuel Macron. Objectif, ramener le calme dans une majorité très divisée sur la méthode à adopter pour faire passer la réforme des retraites. Les syndicats redoutent un passage en force de l'exécutif via un amendement au budget de la sécurité sociale. Mais selon nos informations, Arthur Delaborde, bonjour.
Bonjour.
Les manifestations prévues demain ne devraient pas mobiliser les foules, ce qui conforte l'exécutif, le gouvernement et Emmanuel Macron dans sa volonté d'aller vite.
Oui, ces projections nous renforcent dans l'idée qu'il faut faire la réforme le plus rapidement possible, avance un ministre. Le renseignement territorial estime donc qu'entre 68 et 75 000 personnes vont défiler demain dans tout le pays, dont 4 à 8 000 à Paris, ce qui est relativement peu dans ce contexte. Malgré les critiques qu'elle a suscitées dans la majorité, la piste de l'amendement au budget de la Sécu reste sérieusement envisagé par Emmanuel Macron. L'hypothèse d'un projet de loi spécifique au début de l'année prochaine reste également sur la table. Mais désormais, une troisième option est également à l'étude. Faire passer la réforme dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Le texte serait alors présenté au début de l'année prochaine. Si cette formule pourrait donner l'impression que le président recule en n'allant pas aussi vite qu'il l'espérait, elle présente aussi plusieurs avantages pour le chef de l'État. Utiliser le 49-3 sans difficulté, tout en laissant du temps à la concertation, ce qui calmerait en partie la grogne au sein de la majorité, explique un conseiller. Emmanuel Macron devrait donc prendre sa décision finale en fin de semaine, après le dîner prévu ce soir à l'Élysée, mais aussi après son tête-à-tête vendredi matin à Pau avec François Bayrou, le patron du Modem, qui n'a cessé de répéter son hostilité à tout passage en force.
Merci beaucoup Arthur Delaborde. Après les éoliennes en mer la semaine dernière, on en a beaucoup parlé, le gouvernement veut promouvoir aujourd'hui la filière française de l'hydrogène. Elisabeth Borne, la première ministre, se déplace dans l'Orne aujourd'hui. On parle beaucoup de l'Orne, dans l'Oise. Elle se déplace dans l'Oise. La première ministre est sur le site de Plastic Omnium, une entreprise qui œuvre pour atteindre un objectif ambitieux. Margot Faudéré en direct avec nous de l'Oise. Bonjour Margot.
Bonjour Romain.
Faire de la France, c'est l'objectif ambitieux du gouvernement, faire de la France le leader de l'hydrogène décarboné d'ici à 2030. Hein.
Oui, Plastic Omnium, c'est le numéro un mondial des réservoirs à carburant et qui s'intéresse à l'hydrogène depuis 2015. Pourquoi ? Eh bien, parce que la principale difficulté avec l'hydrogène, c'est que c'est très volumineux et très difficile à stocker. Alors, construire des réservoirs adaptés à l'hydrogène pourrait être une solution. En 2020, justement, Plastic Omnium a co-créé une entreprise de piles à combustion pour aller dans ce sens-là. Plastic Omnium a même été sélectionné cet été par la Commission européenne comme projet d'avenir dans l'hydrogène. Hein, c'est ce qu'on appelle les PIEC. Vous le disiez aujourd'hui, la première ministre Elisabeth Borne est sur le site. Elle devrait également faire des annonces dans l'hydrogène, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi un petit peu le rendez-vous de l'hydrogène. Beaucoup d'acteurs de la filière sont présents, notamment EDF et Engie. Rappelons qu'Emmanuel Macron a fait de l'hydrogène un des 5 secteurs d'avenir en France, avec près de 9 milliards d'euros d'investissement, 7 milliards prévus dans le plan de relance et puis 2 milliards prévus dans le plan France 2030.
Merci beaucoup Margot. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1 en direct de l'Oise. Sans surprise, les autorités pro-russes de l'Est et du Sud de l'Ukraine crient victoire après l'organisation de référendums d'annexion à la Russie. Des résultats que l'on qualifie évidemment de soviétiques. Hein. Les quatre régions annoncent que le oui l'emporte à plus de 85% jusqu'à 99% dans la région de Donetsk. La communauté internationale refuse de reconnaître ces résultats. Wilfried de Villers avec nous. Bonjour Wilfried.
Bonjour.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans ces territoires occupés ?
Eh bien, ils devraient tout simplement être intégrés à la Russie. Les autorités pro-russes, d'ailleurs, de Kherson et de Lugansk, ont déjà demandé officiellement leur intégration au territoire russe. La Douma, le Parlement russe, va voter dans les prochains jours un traité pour rendre bien officielle cette intégration. Le processus devrait normalement aller vite. Pour vous faire une idée, en 2014, l'annexion de la Crimée avait eu lieu 2 jours à peine après un référendum similaire. Dans la foulée du processus parlementaire, Vladimir Poutine doit prendre la parole vendredi pour annoncer formellement l'intégration des 4 régions. Dès qu'elle sera officielle, la Russie considérera toute action militaire ukrainienne dans ces régions comme une agression de son territoire. Hier, dès l'annonce des résultats du référendum, Volodymyr Zelensky a réagi sur sa chaîne Telegram.
Nous agirons pour protéger notre peuple, à la fois dans la région de Kherson, dans celle de Zaporijjia, dans le Donbass, et aussi dans les zones actuellement occupées de la région de Kharkiv et en Crimée. C'est une farce. On ne peut même pas parler d'imitation de référendum.
L'Ukraine demande ce matin un renforcement de l'aide militaire occidentale et appelle tous les États et organisations internationales à condamner les actions du Kremlin. Du côté de l'Union européenne, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dénonce des scrutins illégaux et des résultats manipulés.
Alors Wilfried, je voulais qu'on parle également de l'autre actualité liée à la Russie, les fuites survenues et les explosions et le sabotage, les fuites survenues sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé ?
Alors, on parle de 3 fuites au total, détectées par les autorités danoises et suédoises. Une première lundi sur Nord Stream 2, les autres hier sur Nord Stream 1. Plusieurs explosions sous-marines ont été enregistrées aux endroits où se situent les fuites, qui se caractérisent en surface par des bouillonnements de l'eau en pleine mer. Des accidents extrêmement rares dont on ignore toujours les circonstances exactes. Une chose est sûre, la menace est prise très au sérieux. L'agence danoise de l'énergie relève son niveau d'alerte et la Norvège, désormais principal fournisseur de gaz en Europe, vient de renforcer la sécurité de ses installations pétrolières. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n'hésite pas à parler d'actes de sabotage.
Wilfried de Villers, merci beaucoup Wilfried. Et puis je vous le rappelle, dans un instant, on sera en direct avec Nicolas Tenzer, qui est enseignant à Sciences Po, spécialiste de la Russie. On va revenir sur ces toutes dernières informations. Il est midi 12, restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. On va parler de la RATP. Il y a des problèmes à la RATP. Déjà, il y a une pénurie de chauffeurs, ce qui veut dire qu'il y a moins de bus et on l'attend plus longtemps. Et puis, il y a de faux arrêts maladie. Certains agents malhonnêtes réalisent de faux arrêts maladie. On en parle dans un instant avec Aurélien Fleurot. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Vous l'avez forcément remarqué si vous prenez le bus. En région parisienne, les temps d'attente à l'arrêt sont de plus en plus longs. La faute à une pénurie de chauffeurs à la RATP. Ce sont un quart des bus qui n'ont pas pu circuler au mois de septembre, faute de machinistes, faute de conducteurs. C'est comme ça qu'on appelle les conducteurs à la RATP, les machinistes. Aurélien Fleurot avec nous. Bonjour Aurélien.
Bonjour Romain.
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a décidé, elle gère la RATP, de s'attaquer au problème. Doit-on s'attendre à un retour à la normale ? Rapidement.
Alors pas forcément parce qu'il manque encore plusieurs centaines de chauffeurs. La RATP voulait en recruter 1500 cette année. Seulement 800 ont pour l'instant été embauchés. Des difficultés rencontrées, c'est vrai, par tous les opérateurs. Mais ce qui touche particulièrement la RATP, c'est un taux d'absentéisme très élevé, explique Jean-Yves Leclerc, le directeur financier du groupe.
C'est presque 2 fois plus par rapport à 2019, dont une partie résulte d'actes frauduleux sur lesquels on est en train de renforcer les contrôles et les sanctions, puisqu'il y a environ 130 procédures de licenciement qui sont en cours suite à des arrêts maladie frauduleux.
C'est donc une fraude massive qui a également été dénoncée par Valérie Pécresse, la présidente de la région qui gère Île-de-France Mobilité, pour répondre à l'urgence, puisque moins 25% de services en septembre, c'est totalement inédit. Elle a annoncé plusieurs mesures pour inciter notamment les jeunes à se lancer dans ce métier. Il y aura d'abord une prime de 2000 euros pour tous ceux qui démarrent la formation, une grande campagne de communication pour essayer de recruter. Et puis elle a demandé au ministère de l'Intérieur d'accélérer les délais entre l'obtention du permis et sa délivrance. 3 mois, c'est trop, a-t-elle martelé. 3 mois, c'est aussi la période où la galère devrait continuer pour les passagers, puisqu'un retour à la normale est espéré début 2023.
Aurélien Fleurot, merci Aurélien. De faux arrêts maladie avec de faux tampons, de faux documents.
Et un vrai réseau quasiment, hein, puisque 130 licenciements sont en cours au sein de la RATP.
130 licenciements. Aurélien Fleureau, service économie d'Europe 1. On en a beaucoup parlé hein, pendant la crise sanitaire. Les fermetures de lits se poursuivent dans les hôpitaux. Plus de 4300 fermetures de lits pendant l'année 2021. Donc l'année dernière, ce sont des chiffres dévoilés aujourd'hui par le ministère de la Santé. Des fermetures causées par le manque de soignants notamment. Au total, entre 2016 et 2021, ce sont plus de 21 000 lits qui ont été supprimés. Ce sont des chiffres que je voulais vous donner dans Europe Midi. Il est midi 16, on est mercredi, de nouveaux films sortent aujourd'hui, plusieurs événements. Marie Jiquel, quelle entrée en matière, bonjour.
Bonjour Romain, c'est sur Vivaldi.
C'est sur de Vivaldi. Alors la Palme d'Or débarque sur nos écrans. Hein.
Oui, Triangle of Sadness, sans filtre, en français, du suédois Robin Hoosland. Mais vous vous souvenez sans doute de son film Snow Therapy qui prenait en flagrant délit la lâcheté d'un père de famille face à une avalanche. Avec Sans filtre, Ruben Östlund s'attaque avec le cynisme qui le caractérise aux ultra-riches et aux inégalités qui asservissent notre société. Influenceurs, vendeurs d'armes, oligarques russes, tout ce beau petit monde se retrouve à bord d'un yacht dirigé par un capitaine incompétent.
She's an influencer.
Not bad, not bad.
Yeah. So what do you do?
I sell shit.
Voilà, alors vous venez d'entendre la rencontre entre vendeurs d'armes et influenceurs. Mais la croisière ne va pas s'amuser longtemps. Une tempête bouscule tout ce monde fortuné, réduit à vomir ses tripes dans une longue scène, très loin du luxe, du calme et de la volupté. La caméra tangue pendant la tempête, mais se tient bien droite pour filmer le naufrage du capitalisme. Des longueurs, des malaises, quelques saillies humoristiques durant ce film intelligent, engagé, mais peu divertissant. L'autre événement, Romain, c'est la sortie sur Netflix du film Blonde, qui raconte une Marilyn Monroe très tourmentée et interprétée par l'impressionnante Ana de Armas.
I played Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
Un an de cours de diction pour elle et 15 ans au cinéaste néo-zélandais Andrew Dominik pour réaliser ce film qui a une réalisation très glamour en noir et blanc.
Merci beaucoup Marie Jiquel. La bourse à présent, la bourse tous les jours hein, dans Europe Midi. Claire Lemaître, bonjour Claire.
Bonjour Romain.
Claire Lemaître de boursier.com. Ça baisse à Paris. Hein.
Oui, ça ne s'arrange pas. Le CAC 40 est même passé sous les 5700 points ce matin. Là, ça va un petit peu mieux. Moins 0,7% quand même. 5713 points. Les inquiétudes sont nombreuses. Menaces de récession, flambée des taux. On a aussi les soupçons de sabotage contre les gazoducs Nord Stream qui alimente les tensions énergétiques. Et en fait, le CAC 40 a clôturé 10 fois en baisse sur les 11 dernières séances. Et puis, ça reste compliqué hein, sur tous les marchés en Europe. Londres perd 1,9%, Francfort moins 1,7%, Milan moins 2%. Et à Paris, le CAC 40 perd donc encore 0,7%, 5713 points ce midi.
Claire Lemaître, merci Claire. Boursier.com, tous les jours dans Europe Midi. La météo à présent, Anissa Haddadi, avec beaucoup de pluie et de vent pour ce mercredi. Hein.
Ah, il va falloir occuper les enfants à l'intérieur. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de la pluie quasiment partout, sur les trois quarts de la France, surtout entre les Pyrénées-Atlantiques et le centre-est. C'est là que les pluies sont les plus fortes. Il y a deux zones qui restent au sec aujourd'hui. C'est le nord, les Hauts-de-France, la Normandie, le nord de la région parisienne et puis une partie du Grand Est. Et puis l'extrême sud, des Pyrénées-Orientales à la Côte d'Azur en passant par la Corse. Là, on va avoir un temps sec, ensoleillé, mais attention, avec beaucoup de vent. Hier, on a relevé 201 km/h à Cagnano en Haute-Corse. Aujourd'hui, on attend plus de 140 km/h en Corse. Et puis sur le pourtour méditerranéen, ça va souffler fort. Ça souffle aussi sur toute la moitié sud. Hein. Entre l'Aquitaine et les Alpes, on a du vent même dans les terres aujourd'hui. Alors côté température, il fait frais. 12 à Belfort, 15 à Aurillac, 16 degrés à Paris, Lille et Strasbourg, 24 à Marseille et 27 pour Nice.
Merci beaucoup Anissa. Restez bien avec nous. Êtes dans Europe Midi. Dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé la nuit dernière à Alençon, dans l'Orne. Il y a eu des violences. À tout de suite.
Romain Desarbres vous informe sur Europe 1. Europe Midi.